Happy Hour FG.
Happy Hour.
Le radio show d'Antoine Baduel.
Comme un goût d'éternel recommencement avec la nouvelle enquête de Mediapart sur le MeToo de la musique. Un recommencement car il y a la mise au jour des mêmes mécanismes, une parole qui peine à se libérer, une omerta, des organisations qui protègent les uns et les autres. Et puis, il y a un nom, le nom d'un DJ, Arnaud Rebottini, de Cité, et qui interroge sur la scène électro, Donatien Huette, qui est journaliste pour Mediapart, et mon invité ce soir sur FG. Donatien Huette, bonsoir, bienvenue sur FG.
Merci, bonsoir Antoine.
Alors, votre enquête, Donatien, pour Mediapart, a fait beaucoup parler dans la scène électro ce week-end. Un MeToo de la musique dont on ne cesse de parler, mais on soupçonne qu'on en est qu'au tout début, que ce soit sur les labels, sur l'artiste électro, qui est Arnaud Rebottini, sur lequel vous avez fait un autre article. Est-ce qu'il y a difficulté à enquêter, à libérer la parole, à commencer par celle des victimes potentielles?
Oui, tout à fait. Enfin, c'est toujours compliqué. Ça, peu importe en fait le secteur de la société dans lequel ça se déroule, puisque bon, je rappelle que les violences sexistes et sexuelles, voilà, ça touche absolument toute la société, tout le monde de la culture. Et pour ça, en fait, le vrai point de départ, je voudrais leur rendre hommage, c'est le collectif Music2 qui s'est créé à l'été 2020. C'était en plein confinement sur les réseaux sociaux, et c'est eux qui ont vraiment impulsé en fait cette libération de la parole. Enfin, ce que j'appelle plutôt libération de l'écoute, hein, puisque la parole a toujours été là. C'est juste que c'est une parole qui n'a pas été entendue par le passé, avant MeToo, et dans le monde de la musique avant Music2. Et Music2, voilà, ils ont fait tout ce travail de récolte de témoignages. À la base, c'était un collectif anonyme qui ensuite est devenu public. Et donc, c'est là-dessus à la base qu'on s'est basé, nous, parce qu'on a fait une sorte de partenariat avec eux. On a pu récolter justement tous les témoignages issus de cet appel à témoignages. Il y en avait 300 à peu près. Et donc, tout part de là, finalement. Donc, c'est sûr que en tant que journaliste, parfois, surtout que nous, à Mediapart, on n'est pas du tout journaliste spécialisé dans la culture, donc on a peu de connexions dans cet univers. Donc c'est vrai que passer par des structures militantes pour ensuite faire notre travail de journaliste, ça peut être un excellent point de départ.
Alors, plus globalement, les acteurs de la musique, qu'il s'agisse des labels, des tourneurs, des ingénieurs du son, des promoteurs, ils réagissent comment quand vous menez une enquête comme celle-là? C'est l'omerta généralisée, ou alors les prises de conscience font que votre travail est plus simple? Parce que souvent, c'est vrai que beaucoup d'organisateurs viennent justement pour parler des safe zones qu'ils organisent dans les festivals. Il y a une prise quand même de conscience dans le discours. Est-ce que ça se suit d'actes?
Oui, alors de toute façon, généralement, en fait, quand on travaille, ça se fait un petit peu par étapes, quoi. On contacte des gens qui connaissent des gens qui connaissent d'autres gens, donc ça se fait un petit peu comme ça. Enfin, peu de personnes vont nous parler directement. Ça dépend après, voilà, des sujets. Mais globalement, c'est sûr que c'est jamais immédiat. Et c'est vrai que vu que voilà, le milieu de la musique, c'est un milieu qui se joue beaucoup, voilà, par les relations, parfois même, notamment le milieu de la musique électronique, c'est un petit milieu. Donc ça fait que nous, quand on travaille, généralement, on va travailler vraiment étape par étape, justement, en essayant de construire cette relation, de prendre des contacts un peu progressivement avec des gens, c'est sûr que souvent aussi, le travail journalistique est assez méconnu. Donc il nous faut aussi pouvoir mettre en confiance les gens pour qu'ils parlent sans prendre trop de risques. Hein. Dans l'article sur Arnaud Rebottini, il y a une seule personne qui me parle on, c'est Yvan Smag. Voilà. Sachant qu'il y a un DJ très connu qui était membre du groupe Black Strobe.
Oui, le fameux Black Strobe Italian Fireflies qu'ils avaient produit ensemble, effectivement.
Tout à fait, voilà, ils ont travaillé ensemble pendant 9 ans ensemble, Black Strobe, donc autant vous dire que Yvan Smag a très bien connu Arnaud Rebottini, et voilà, et ce qui m'expliquait, c'est que par exemple, lui, il a mis du temps justement à réaliser un petit peu tout ce qui s'était passé à l'époque, puisque à l'époque, il me sait ses mots, hein, on parlait de drague lourde, on parlait pas d'agression sexuelle, on parlait pas de harcèlement sexuel, puisque c'était une époque 97-2006, qui était une dizaine d'années avant, voire une vingtaine d'années avant MeToo, hein. MeToo, c'est 2017, donc ça fait que lui, il a fait justement tout un travail d'essayer d'analyser tout ce qui s'était passé à l'époque, et finalement voilà, il a bien accepté de me raconter aussi quelles ont été les vraies raisons de pourquoi Black Strobe aussi a splitté en 2006, et c'était pas seulement des divergences artistiques, mais aussi des divergences par rapport au comportement d'Arnaud Rebottini avec les femmes.
Alors, votre enquête pour Mediapart, ce sont également 7 témoignages de femmes contre Arnaud Rebottini. Elles racontent leur vécu. Précisons d'ailleurs qu'aucune plainte n'a été déposée pour le moment. L'artiste, lui, se présente comme un dragueur lourd, comme tu le disais tout à l'heure, Donatien. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans cette enquête? C'est la banalisation de certains actes ou la difficulté à en parler?
Non, ce qui m'a le plus surpris, c'est vraiment en fait la façon dont ces actes s'étalent au fur et à mesure des années, puisque le premier témoignage remonte à l'année 2006, le dernier remonte à l'année 2019, donc on est quand même sur une période de 13 années, sachant qu'il y a probablement, mais même si j'ai pas de preuves, sans doute des faits qui ont lieu après, avant, donc c'est la façon dont en fait Arnaud Robotini aurait pu justement agir un peu en toute impunité pendant toutes ces années, sachant que voilà ce que je raconte dans l'article aussi, en faisant témoigner justement pas mal de personnes du milieu de l'électro, qu'elles soient tourneurs, qu'elles soient programmateurs, qu'elles soient managers, qu'elles soient musiciens, musiciennes, bah, ce qu'elle me raconte, c'est qu'en fait, tout le monde était au courant. Le mot secret de Polichinelle est le mot que j'ai le plus entendu. Donc, ce qui peut paraître étonnant, c'est la manière dont, en fait, Arnaud Robotini n'a jamais pu être inquiété après toutes ces années, que finalement il a fallu attendre l'année 2024, donc là et aujourd'hui il a 54 ans dans Robotini, pour que bah il y ait quelque chose qui sorte sur lui. Et c'est vrai que bah beaucoup de personnes en fait attendaient ce que ça sorte, à tel point que Arnaud Robotini lui-même pensait que j'enquêtais sur lui depuis 2019, alors qu'en fait c'est absolument pas le cas. J'ai reçu les premiers témoignages en 2021 à peu près.
Merci en tous les cas, Donatien Huette, journaliste pour Mediapart. Un MeToo de la musique, une nouvelle fois au cœur d'un dossier de Mediapart et notamment un article sur l'artiste Arnaud Robotini. Tout cela est disponible sur le site de Mediapart en accès payant, car le travail journalistique, ça se paye. Dans un instant, mon invité, ce sera la cofondatrice de l'association Consentis, Domiti Ravo, qui vient très régulièrement dans la Happy Hour. Merci beaucoup, Donatien, et à bientôt sur FG. Bonne soirée.
Happy Hour FG. Happy Hour. Le radio show d'Antoine Baduel.
Deux nouvelles enquêtes de Mediapart et toujours ce constat amer que MeToo musique n'est pas tout à fait enclenché. Pourtant, ils sont nombreux à œuvrer hein, sur le terrain pour libérer la parole, protéger, sécuriser, responsabiliser celles et ceux qui font la fête ou qui l'organisent. Où en est le MeToo électro? C'est la question que je pose à Domiti Ravo, qui est la fondatrice de l'association Consentis. Elle est mon invitée ce soir sur FG. Bonsoir Domiti, comment tu vas?
Bonsoir, ça va très bien et toi?
Ben ça va très bien, je te remercie. Alors, on va pas te demander de t'exprimer sur un cas particulier, mais sur le dossier que vient de publier Mediapart rappelle que le MeToo de la musique n'en est qu'à ses débuts et que l'omerta est toujours là, à certains égards. Alors toi, tu travailles sur ces questions, notamment dans le cadre festif. Est-ce que tu crois que les choses bougent et que les prises de conscience se font?
Les choses bougent, mais de manière assez lente. Et j'aimerais quand même revenir sur l'affaire qu'a développée Mediapart. Ce qui est intéressant dans cette enquête, je trouve, c'est que ça souligne en fait le déséquilibre de pouvoir inhérent qu'il y a dans une relation entre une personne, un DJ célèbre et ses fans, parce que le statut de célébrité confère au DJ un pouvoir et une influence qui sont considérables sur les personnes qui les admirent. Et ça peut faire que les fans ou les personnes dans le public en général peuvent être particulièrement vulnérables en fait aux abus de pouvoir de la part des DJ, et encore plus quand il y a une différence d'âge notable, ce qui est le cas par exemple dans cette enquête.
Alors, ce que dit Mediapart, et c'est aussi ce qu'on entend ailleurs, dans le cinéma par exemple, des artistes renommés décrits comme dragueurs un peu lourds, des choses dont on dit qu'elles sont d'une ancienne époque, bref, des comportements qui sont souvent banalisés et pas très graves. Alors, comment tu observes ça, toi, avec Consentis? Est-ce que la scène musicale est différente du reste de la société sur ces questions?
Non, je dirais que la scène des musiques électroniques et la scène de la fête, c'est ce qui se passe à l'intérieur, c'est exactement le reflet de ce qui se passe à l'extérieur de manière plus globale dans la société. Et j'aimerais rappeler qu'en fait, boire, ça peut certes diminuer les inhibitions, mais ça ne justifie en aucun cas d'avoir des comportements prédateurs ou de commettre des agressions sexuelles. Le fait d'être ivre n'est en aucun cas une excuse en fait pour le manque de respect des limites des autres et du consentement. C'est même une circonstance aggravante selon la loi, et la loi est d'ailleurs très claire à ce propos en ce qui concerne les agressions sexuelles. Donc ça ne dépend pas du jugement individuel, donc ça ne dépend pas de savoir si une personne a été relou ou non, mais bien de définir que, par exemple, des baisers volés, ce sont des agressions sexuelles.
Le milieu de l'électro, c'est la starisation des artistes, de l'artistique, c'est aussi de la fête, des excès parfois. Est-ce que ça rend un MeToo électro et une protection des femmes plus difficile selon toi?
Ce que je dirais, c'est qu'en fait, c'est hyper important de politiser les dénonciations d'agressions sexuelles, de dénoncer les rapports de pouvoir et en fait de montrer qu'en fait, les dénonciations ne sont jamais des faits isolés et qu'elles nous permettent en fait de refléter des structures de pouvoir, et qu'il faut absolument que celles-ci soient remises en question et combattues par la filière des musiques électroniques notamment, sachant qu'il est super difficile en fait de témoigner dans le milieu de la fête parce qu'on a tendance à minimiser ces rapports de pouvoir et de domination au détriment des victimes. Il faudrait surtout pas gâcher la fête, mais au profit de qui au juste ?
On parle d'un artiste ou d'un label dans Mediapart, mais au-delà des acteurs, des DJ, des promoteurs, c'est aussi le public qui doit s'interroger sur ses comportements, sur le rapport aux autres, aux femmes. D'après toi, qu'est-ce qu'on doit marteler comme message ? Quelle est l'urgence ?
L'urgence, c'est bien sûr de rappeler que le consentement, il est indispensable auprès du public, mais je pense aussi que les acteurs et actrices de la filière ont leur rôle à jouer, notamment les programmateuristes et les agences de booking, qui doivent absolument prendre des mesures concrètes pour protéger le public, parce que ces personnes occupent des positions centrales dans l'industrie et ont une influence significative sur la programmation des événements. Et ça leur confère une responsabilité particulière dans la promotion de soirées plus safe. Donc il faut absolument en fait mettre en place des politiques de tolérance zéro en matière de violence sexuelle avec des protocoles de signalement fiables. Ça, c'est vraiment notre revendication aujourd'hui avec notre association Consentis.
Merci Domiti Ravo, fondatrice de l'association Consentis qui œuvre pour un milieu festif et artistique plus inclusif et protecteur envers les femmes, notamment avec son appel Réinventer la nuit. Ça avait été l'occasion de t'accueillir il y a quelques mois sur FG dans la Piawer. Merci Domiti, à très bientôt sur
Merci
FG.
Merci beaucoup.
Bonne soirée à toi.
Merci.
Les infos sur consentis.info.